Alexandre Moranville-Ouellet.
Cube Radio.
Incorruptible défenseur de la vérité. Il combat la désinformation, un argument à la fois. Journaliste dévoué, il n'est jamais à court d'arguments. Son pouvoir de persuasion brave tous les sujets de l'actualité. Alexandre Moranville-Ouellet.
Mardi 5 juillet, bienvenue à Cube Radio. Je reprends ma programmation habituelle de 9 à 10 heures. Alexandre Moranville-Ouellet avec vous pour la prochaine heure, une heure chargée en actualité, surtout qu'hier. Encore une fois, aux États-Unis, on a assisté à une autre fusillade à Island Park, non loin de Chicago. 6 morts, de très nombreux blessés. On parle de gens, là, 26 blessés minimum, entre 8 à 85 ans. Tout ça s'est déroulé pendant un défilé du 4 juillet pour célébrer, évidemment, l'indépendance des États-Unis, cette fameuse date spéciale, fétiche, importante aux yeux des Américains, évidemment, pour célébrer leur identité, pour célébrer leur pays, pour célébrer habituellement leur unité. Cette année, comme dans les dernières, c'est extrêmement difficile aux États-Unis. Il y a des tensions sur tellement d'enjeux. On en a parlé hier et on va en reparler aujourd'hui parce que je veux comprendre là, cette fascination, la vénération que certains Américains vouent aux armes. Il y a un lien étroit entre le fanatisme religieux et les armes à feu en ce moment aux États-Unis. Je vais recevoir un historien tout à l'heure à 9h45 qui va nous parler justement de ces tensions-là et de cette vénération des armes à feu. Hier, le président Joe Biden a encore une fois pris la parole sur les armes à feu. On peut en écouter un extrait.
You all heard what happened. You all heard what happened today. But each day, we're reminded there's nothing guaranteed about our democracy. Nothing guaranteed about our way of life. We have to fight for it, defend it, and earn it by voting.
Préserver notre démocratie, notre droit en allant voter. Il faut combattre, oui, en allant voter, mais en attendant, c'est pas les votes, c'est ce qui transparaît aux États-Unis, qui permettent même à la majorité de faire changer les choses. Les juges de la Cour suprême, entre autres, sont élus à vie, et c'est extrêmement difficile après qu'il y en ait qui soient élus, de les faire, évidemment, changer de position, changer d'avis, mais surtout, de les faire changer de poste, tout simplement et tout bonnement. Une autre histoire, évidemment, qui a attiré mon attention, là, qui s'est passée dans le coin d'Ottawa, mais c'est un homme de Gatineau qui a été remis en liberté, lui, qui avait participé à plusieurs méfaits pendant les manifestations de la liberté. Vous en souviendrez, au printemps dernier, à Ottawa, il y avait les camionneurs qui étaient installés dans les rues, il y a eu toutes sortes de grabuges, de méfaits, et c'est un homme, Norman Blanchfield, 33 ans, qui est arrêté par la police d'Ottawa dans des circonstances assez drôle, on va le dire, merci. Il était en train de diffuser un fameux live Facebook, une diffusion en direct sur Facebook. Il se filmait, cellulaire à la main, au volant, pendant qu'il n'avait pas de permis de conduire. Et il diffusait là, directement en se dirigeant vers Ottawa, en parlant à diverses personnes qui le suivent sur les réseaux sociaux. Et parmi les gens qui étaient en train d'écouter, des policiers de la police d'Ottawa qui l'ont donc intercepté, téléphone à la main, en train de briser directement ses conditions en voulant se rendre à Ottawa, lui qui n'a pas le droit de s'y trouver en dehors de ses dossiers de cours. Donc un autre drôle de dossier. Il a été remis en liberté à nouveau, mais ses conditions cette fois-ci sont beaucoup plus restreintes. Un autre dossier qui commence à prendre là à faire effet boule de neige sur les réseaux sociaux de plus en plus, c'est ce dossier judiciaire qui a été là un jugement qui a été rendu qui peut sembler assez étrange et qui est dénoncé entre autres par certains organismes d'aide aux victimes. Le tribunal qui a accordé l'absolution à un ingénieur, Simon Hull, qui a été reconnu coupable d'agression sexuelle sur une femme en état d'ébriété, une jeune femme avec qui il étudiait là, en génie en avril 2019 dans une fête arrosée. L'aurait agressé sexuellement, aurait même pris des photos de l'événement. Et ce que le juge utilise comme motif pour donner une absolution, donc on s'entend, il n'y aura pas de casier judiciaire, Simon Hull. Ce qu'il invoque comme motif, c'est que ça pourrait nuire à sa carrière d'ingénieur parce qu'il ne pourrait pas voyager avec un casier judiciaire, mais également que l'acte sexuel s'est déroulé somme toute rapidement. Moi, c'est extrêmement rare que j'ai entendu que la rapidité d'une agression sexuelle soit invoquée pour justifier que c'est moins grave? Est-ce que c'est le message qu'on veut envoyer justement aux victimes, aux potentiels agresseurs sexuels? C'est la question que je me pose en ce moment et je reçois Marie-Christine Villeneuve, qui est coordonnatrice aux communications et relations publiques au Centre d'aide aux victimes d'actes criminels, le CAVAC. Madame Villeneuve, bonjour.
Bonjour.
Tout premièrement, là, c'est quoi le message qu'on envoie aux victimes? Là, je viens de me le poser, mais je vous pose la question à vous. C'est quoi le message qu'on envoie aux victimes d'agressions sexuelles quand on rend un jugement comme celui-là?
Ben, c'est sûr que c'est un message qui soulève des questions parce qu'une décision dans ce genre-là peut inévitablement miner la confiance des personnes victimes dans le système de justice parce que, bon, on voit que dans ce cas-ci, l'accusé s'en tire très bien alors que la personne victime, elle, demeure avec son traumatisme, demeure avec les séquelles de cette agression-là. Et ben c'est sûr que souvent, les personnes victimes accordent quand même beaucoup d'importance au processus judiciaire et comment ça se termine pour entamer un peu le cheminement vers la réparation, vers une reprise de contrôle un peu sur leur vie à la suite de cet événement-là. Donc, c'est sûr que de voir une décision dans ce genre-là, ça peut peut-être même porter certaines personnes victimes être un petit peu plus inquiète à dénoncer, là, avoir un peu moins confiance en le système de justice. Une sentence, en fait, qui est très surprenante parce que ça va un peu à l'encontre de ce qu'on voit depuis quelques années. On voit qu'on est vraiment plus vers la sévérité des sentences que plus vers, dans ce cas-ci, une absolution. Donc, ça respecte pas vraiment l'esprit du rapport rebâtir la confiance là qui a été établi. Parce que dans ce rapport-là, ce qu'on souhaite comme société, c'est d'avoir un souci du bien-être des personnes victimes. Et c'est sûr qu'en voyant une sentence comme ça, ben ça va à l'encontre de ce qui est inscrit dans ce rapport-là et surtout des tendances actuelles. Parce que comme je l'ai dit, on a plus tendance à voir des sentences qui sont plus sévères. On veut envoyer des messages plus forts. Alors là, qu'on est de voir cette sentence-là, on est vraiment dans un message contradictoire.
Oui, tout à fait. Parce qu'on veut justement sévir de manière plus intense pour dissuader les comportements comme ceux-là qu'on juge inacceptables. On veut mieux encadrer les victimes. Là. Et la victime, dans ce cas-ci, là, a souffert de plusieurs conséquences psychologiques dites dévastatrices. Là, ça a mené à une hospitalisation. Elle a dû arrêter son parcours scolaire. Un arrêt de travail de 5 mois, ça lui a causé des difficultés financières. Est-ce qu'à ce moment-là, c'est pas une claque au visage de la victime de dire, du côté du juge, là, de dire, mais ça a somme toute duré, ça s'est déroulé somme toute assez rapidement, cette agression sexuelle-là. C'est pas une claque au visage de la victime qui, elle, subit pas une récupération somme toute rapide. Là. Ça prend des mois pour se remettre de ça, des années.
C'est certain que la personne victime serait probablement en meilleure posture pour vous dire comment elle fait ça, mais c'est, comme je vous dis, c'est effectivement un jugement de sentence qui soulève des questions puis qui peut décourager les personnes victimes. Et j'imagine que dans ce cas-ci, la personne victime a dû prendre de travers cette décision-là et avoir de la difficulté à l'accepter. Ceci dit, nous, au CAVAC, la finalité d'un processus judiciaire, on sait que c'est important pour une personne victime, mais il faut dire que ça n'efface pas le traumatisme non plus, ce qui se passe dans le processus judiciaire et la décision qui sera rendue finalement. Les personnes victimes ont été victimes d'une expérience traumatique qui a des séquelles et la finalité du processus, ça ne vient pas effacer tout ce qu'elles ont vécu et régler tous les bobos. C'est pour ça qu'au CAVAC, on encourage beaucoup les personnes victimes, oui, effectivement, à suivre le processus parce que, comme je le disais, c'est une étape qui est importante, mais à se concentrer aussi sur d'autres aspects pour arriver à cheminer puis à passer à travers cette dure épreuve-là. Parce que quand on concentre tous nos efforts, nos énergies sur le processus judiciaire, évidemment que quand ça se termine comme ça, ça entraîne des déceptions. Et on veut donc pas qu'il y ait des déceptions et que la personne victime, au bout de cette démarche-là, se sente pas entendue, se sente que ce qu'elle a vécu, ça compte pas. Donc, c'est sûr que ça doit être difficile d'entendre cette décision-là. Et c'est pourquoi on encourage les personnes victimes à trouver d'autres façons de cheminer là, vers la réparation.
Parce que la dernière chose qu'on veut avec tout ça, c'est décourager justement d'autres victimes potentielles à aller porter plainte, à dénoncer leurs agresseurs. C'est certain, comme vous le dites, là, c'est pas nécessairement la sentence qui est le point central. C'est pas nécessairement une sentence de prison titanesque qui va réparer les gestes causés, loin de là. Mais c'est plutôt dans la rhétorique pour expliquer une absolution comme celle-là. Parce que vous êtes mieux placé que moi pour nous le dire, pour expliquer à nos auditeurs, est-ce que ça arrive souvent comme ça qu'on a des absolutions qui sont liées, là, pas nécessairement seulement dans les cas de crimes sexuels, mais avec la carrière? On invoque la carrière d'une personne qui obtient l'absolution?
Ça arrive de moins en moins souvent et encore moins dans le cas de crimes sexuels, là, comme vous l'avez mentionné. Puis je parlais tantôt du rapport Rebâtir la confiance, c'est qu'au niveau de la violence conjugale, de la violence sexuelle, on a vu que les personnes victimes avaient besoin d'être mieux entendues, mieux soutenues, qu'on avait besoin de se soucier d'elles. Donc, on tend vers ça comme société. Puis le système judiciaire est en train de subir toutes sortes de modifications, notamment, par exemple, avec le tribunal spécialisé en violence sexuelle, violence conjugale. Donc, on tend vers une écoute beaucoup plus, je dirais, active des personnes victimes. Et donc, c'est pourquoi ce genre de message-là qui est passé dans cette décision, ce que vous m'avez dit tantôt, là, qu'on peut retrouver dans le jugement, ce qui a été mentionné par le juge, c'est beaucoup moins fréquent aussi. Puis, je pense que aussi, il faut le préciser pour les personnes victimes, que ça pourrait peut-être décourager ce genre d'absolution conditionnelle comme ça. Ça arrive beaucoup moins fréquemment. Et heureusement, on voit de plus en plus de décisions, comme je disais, qui vont de l'autre côté. Donc, qui tentent d'envoyer un message fort, un message dissuasif à l'endroit des contrevenants, ce qui peut être rassurant pour les personnes victimes. Donc, il ne faut pas uniquement voir cette décision-là. Évidemment, elle peut surprendre, elle peut choquer. C'est pourquoi on en parle aujourd'hui. Il faut en parler, mais il faut aussi, je pense, concentrer notre attention sur les autres, parce qu'il se rend toutes sortes de décisions chaque jour. Et ce qu'on voit de plus en plus, c'est des décisions qui veulent envoyer un message fort puis un message qui est dissuasif. Donc, ça aussi, il faut en parler parce qu'il faut quand même pas décourager toutes les personnes victimes à soit aller porter plainte, mais surtout à aller chercher de l'aide. Et je pense qu'il faut le rappeler, ça peut-être du côté des CAVAC, nous, là, que la personne victime ait porté plainte ou pas, on offre les services. Donc, ça aussi, c'est la voie que certaines personnes empruntent, des fois, de passer par le processus judiciaire et d'autres peut-être pas. Et d'une façon ou d'une autre, il y a des services puis il y a de l'aide pour elles.
C'est certain qu'on va encourager là nos auditeurs, auditrices, des gens qui seraient victimes de ces agressions, de ces crimes aussi, à venir chercher les ressources d'aide de votre côté au CAVAC. Mais ça me rassure d'entendre de votre bouche, là, vous qui, évidemment, parler, traiter tous les jours avec des gens qui sont victimes d'actes, non seulement de violence, mais des actes criminels. Je suis contente d'entendre que des messages forts sont envoyés aux victimes comme ça, et surtout aux agresseurs, et que ce cas-ci ne fait pas cas de figure. Dans tous les cas, on va continuer de le suivre de près. L'avocat de Simon Hull n'a pas souhaité commenter le dossier à ce point-ci, mais le dossier devrait être porté en appel par la couronne. Donc, ça devrait peut-être modifier ce jugement-là de manière ultérieure. Madame Marie-Christine Villeneuve, coordonnatrice aux communications et relations publiques au Centre d'aide aux victimes d'actes criminels, le CAVAC, merci beaucoup d'avoir été des nôtres.
Ben, ça fait plaisir. Bonne journée.
Au revoir.